matinale de Radio Classique avec David Abiker.
François, votre invité, c'est le directeur général adjoint de Deezer. Bonjour Stéphane Rougeot.
Bonjour.
Bienvenue sur Radio Classique. Demain entre en vigueur le Digital Markets Act, le DMA, réglementation européenne qui doit éviter les situations anticoncurrentielles dans la tech. C'est très important quand un très gros acteur empêche quiconque de lui faire de l'ombre. Qu'est-ce que ça doit changer dans votre univers, la musique ?
Bah pour nous, donc Deezer, on est une plateforme de streaming. Et évidemment, on est en concurrence avec d'autres plateformes de streaming, notamment Apple Music, mais il y en a également d'autres. Et une manière pour nous de trouver nos abonnés et pour nos abonnés de profiter de notre service, bah, c'est de passer par ces applications, par ces app stores, ce que la Commission européenne appelle les gatekeepers. Et donc, c'est très important pour nous que les conditions de la concurrence soient bien respectées, qu'il n'y ait pas de charge indue, que les abonnés ou ceux qui souhaitent s'abonner n'aient pas à payer des prix supplémentaires et un coût supplémentaire lié à ces App Store. Donc voilà, toutes ces conditions d'une concurrence efficace et qui fait que bah, toutes nos innovations peuvent aller dans les mains de nos abonnés ou de futurs abonnés sont des choses importantes et c'est ce que permet le Digital Market Act et on s'en félicite.
Mais il devrait être aussi facile de se désabonner que de s'abonner à un service. Les grandes plateformes ne pourront pas imposer leur propre service ni réutiliser les données personnelles d'un utilisateur à des fins de publicité ciblée. Tout ça semble positif. Vous avez eu à souffrir, vous, de l'hégémonie de ces plateformes, de ces géants, de ces gatekeepers, comme on dit en bon français, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft.
Bah, si on regarde les géants de la big tech, ils ont tous créé un service de streaming. Ah, donc il y a YouTube, il y a Amazon Music, il y a Apple Music. Et donc c'est toujours un petit peu embêtant de se dire que vos concurrents directs sont également ceux qui vous distribuent ou ceux par lesquels vous pouvez accéder à vos abonnés. Donc c'est à la fois évidemment une facilité pour nos abonnés, mais pour nous c'est un petit peu embêtant. Si vous prenez l'exemple de l'App Store par exemple, en passant par l'App Store, bah, l'abonné Deezer, il va payer 3 euros de plus. Et c'est clair que c'est pas les mêmes conditions tarifaires que quelqu'un qui viendrait s'abonner en direct sur le web sans passer par un App Store.
Qui induit une concurrence déloyale entre vous et Apple Music. Dans votre cas, vous dénoncez aussi, avec votre concurrent Spotify, la réponse qui est apportée par Apple tout récemment en vue de l'application de ce DMA. Pourquoi ? Quel est le problème ?
Bah, ce que propose Apple, c'est de remplacer, enfin de choisir entre le système qui existait jusqu'à présent, avec évidemment un prélèvement important, puisque c'est un prélèvement de 30% du prix de l'abonnement qui va dans les poches d'Apple, et éventuellement de choisir pour une option qui est différente, qui est d'avoir une taxation, on va appeler ça la taxe Apple, réduite, mais en revanche de payer 50 centimes par application qui serait downloadée ou par application qui serait updatée, qui serait mise à jour. Et donc ça veut dire que pour nous, c'est un frais variable qu'on devrait payer à Apple de 50 centimes pour chacun de nos abonnés à chaque fois, soit qu'il downloaderait, si c'est un nouvel abonné, soit qu'il mettrait à jour son application, ce qu'on fait évidemment régulièrement, à chaque fois qu'on a de l'innovation, à chaque fois qu'on lance des nouvelles fonctionnalités, on met à jour notre application et donc on devrait payer à chaque fois. Et on a fait les calculs, en fait au global, ça nous reviendrait au même, voire un peu plus cher. Et si on a une croissance de notre base d'abonnés, ce qui est le cas en ce moment, évidemment ça nous reviendra de plus en plus cher.
Donc c'est un jeu. C'est démesuré, ça crée de nouvelles barrières à l'entrée.
Oui, exactement. Et c'est un jeu de dupes et c'est une manière de contourner la nouvelle réglementation européenne.
Apple qui vient par ailleurs d'être condamné à 1,840 milliards d'euros d'amende pour des entraves à la concurrence, justement dans le domaine de la musique, procédure lancée en 2020. Il y aura appel, c'est donc loin d'être fini, mais ça va dans le bon sens. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de basculer, un déclic au niveau, j'allais dire, mental de la Commission européenne?
Oui, je pense que l'Europe prend conscience qu'il faut qu'il y ait des conditions d'une concurrence qui soit juste, qui soit fair, qui permette d'encourager l'innovation. Nous, on dépense énormément d'argent pour l'innovation. On lance de nouvelles fonctionnalités pour avoir un service de grande qualité et même un service plus concurrentiel que les autres. Et de se dire que finalement, cette innovation, elle doit être payée plus cher quand nos abonnés passent par ces plateformes-là, c'est problématique. Donc, on pense que ça va effectivement dans le bon sens et ça encouragera l'innovation. Et puis, ça va aider les plateformes qui font pas partie de ces grands univers que sont la Big Tech.
Alors justement, vous n'êtes pas dans la Big Tech, mais vous êtes un champion français. Vous parlez-nous de vos résultats. Où en êtes-vous? Vous les avez publiés il y a quelques jours. Ils sont très positifs.
On est très content de la performance 2023. effectivement, on a retrouvé une accélération de notre croissance. On a terminé l'année avec une croissance de 12% au quatrième trimestre. Et donc, tout ce qu'on a mis en place pour se développer et pour aller chercher des nouveaux abonnés fonctionne. On a deux moteurs de croissance qui sont la France, où on continue à croître très régulièrement en France, et puis à l'international à travers les partenariats. Et en 2023, on a terminé l'année avec 10,5 millions d'abonnés. C'est plus d'un million d'abonnés en plus en un an. Donc c'est une croissance qu'on n'avait jamais vue. Et on a fait ça tout en réduisant nos pertes. Vous avez probablement vu qu'on avait divisé par deux les pertes de l'entreprise. On a annoncé que pour 2024, on va à nouveau diviser par deux les pertes de l'entreprise.
2024, ce sera l'année du flux de trésorerie positif. 2025, la rentabilité opérationnelle. Donc ça y est, c'est le bout du tunnel pour Deezer.
C'est les engagements qu'on a pris au moment de l'introduction en bourse. On a annoncé que cette société serait en mesure de voler de ses propres ailes, de générer son free cash flow à partir de son activité, sans avoir à faire appel à des actionnaires, et de devenir profitable en 2024 et en 2025 respectivement, et c'est ce qu'on va délivrer.
Parlez-nous de ce modèle des partenariats qui vous singularise et qui effectivement porte cette croissance du nombre d'abonnés.
Ben, c'est simple, et ça en revient un peu au premier sujet. Comme nous, on n'a pas l'écosystème de la Big Tech, et on n'a pas non plus la puissance de marque de Spotify. En fait, on a un atout qui est très spécifique à Deezer, qui est la capacité à s'intégrer et à apporter la musique à des partenaires qui vont utiliser ça vis-à-vis de leurs clients, de leurs abonnés, de leurs utilisateurs.
Des partenaires qui vendent d'autres services et qui vendent avec un abonnement Deezer.
Exactement. En France, on a vu ça avec Orange depuis maintenant plus de 10 ans, et on a renouvelé ce partenariat de multiples reprises. Et pour Orange ou pour des groupes qui proposent des abonnements, de proposer un autre abonnement comme celui à la musique, ben c'est une manière d'avoir une meilleure rétention. Mais on fait ça maintenant également dans l'e-commerce. On a proposé, et on est maintenant le service de musique de Mercado Libre, qui est le champion de l'e-commerce en Amérique latine. Ils sont plus gros qu'Amazon en Amérique latine. Ils n'ont pas la musique comme Amazon Music. Ils ont pris Deezer et ils proposent au Brésil et au Mexique la musique par Deezer à leurs abonnés, à leur programme de souscription d'e-commerce.
Le design, le logo de Deezer ont été changés. Vous faites aussi des quiz, de la billetterie de concert. Tout ça reste lisible, cohérent. Tout ça crée de la valeur, de façon commune.
Alors, c'est l'évolution fondamentale de ces plateformes qui, depuis 15 ans, quand on a créé le streaming, étaient des plateformes d'accès à la musique et d'écoute de la musique. Et on s'est dit, finalement, avec la technologie, on peut devenir des plateformes d'expérience de musique. Et donc, ce qu'on propose à la fois à nos abonnés, mais aussi aux artistes, c'est de permettre sur les plateformes toutes ces nouvelles expériences qui sont liées à la musique et permettent de vivre la musique. D'ailleurs, avec l'évolution de ce qu'on a fait sur notre identité visuelle, notre tagline, c'est « Live the music », parce que c'est ce qu'on veut permettre à travers ces plateformes.
Votre logo, désormais, c'est un cœur stylisé. Voilà.
Exactement, c'est un cœur, parce que la musique, finalement, c'est les connexions, c'est l'émotion, c'est tout ça, et c'est ce qu'on apporte à nos abonnés, c'est ce qu'on apporte aussi à nos partenaires. Donc voilà ce qu'est le nouveau Deezer et comment on est en train d'évoluer.
Une taxe streaming qui arrive, quel impact pour vous ?
La taxe streaming, on l'a dit à de multiples reprises, c'est complètement incompréhensible parce que finalement, c'est une taxe qui s'applique en France. Nous, on est parmi les 5 grandes plateformes, on est celle qui est la plus française et on a 60% de nos chiffres en France, donc on va être impacté de manière totalement disproportionnée.
On se met nous-mêmes un boulet au pied, en fait.
On se met un boulet au pied et franchement, c'est absolument incompréhensible. Donc voilà, on attend les modalités et la définition du périmètre exact d'application et on va voir comment est-ce que nous, on va pouvoir gérer cette nouvelle taxe supplémentaire. Mais franchement, ça a été la mauvaise nouvelle de l'année 2023.
Dans ce contexte de bons résultats de Deezer, le directeur général, Geronimo Folguera, a annoncé son départ. C'est vraiment des projets personnels qui le poussent à...
Oui, Geronimo, il a décidé de partir parce qu'effectivement il a des projets personnels. Après, ça fait 3 ans qu'il est là. Il a le sentiment, je pense, d'avoir en grande partie accompli sa mission, c'est-à-dire remettre la société sur les rails, lui redonner un souffle de croissance. Et on voit bien dans les résultats de 2023 qu'on est en train d'y arriver. Et on va avoir en 2024 une croissance à 2 chiffres. Et puis enfin de permettre à la société justement de voler de ses propres ailes et d'atteindre la profitabilité. Et ça sera le cas dans un an, en 2025.
Un gros changement chez vous, chez Deezer, c'est tout récent, c'est le mode de rémunération des artistes, censé mieux payer les vrais artistes de métier plutôt que les musiques d'ambiance, les bruitages, le bruit de la mer ou des mouettes ou du vent. Expliquez-nous le fonctionnement et est-ce que c'est efficace finalement ? Certains disent en fait on prend au petit pour donner au gros.
La problématique qu'on a eue, c'est que quand les plateformes ont été créées il y a 15 ans, à l'époque, il y avait 4 millions de titres disponibles. Quand vous regardez aujourd'hui, il y a plus de 100 millions de morceaux disponibles.
Chez vous, il y a 100 millions de morceaux.
Ouais, il y a plus de 100 millions de morceaux disponibles. Et évidemment, il y en a une très grande partie qui est jamais écoutée. Et surtout, il y en a qui prennent une partie des royalties alors qu'ils font l'objet d'aucune création artistique, d'aucun engagement particulier, et ils ont été faits soit de manière artificielle, par de l'intelligence artificielle, soit simplement c'est des bruits de pluie, des bruits de tondeuse, des bruits de machine à laver, et ils peuvent être écoutés. Dans ce cas-là, ils prennent une partie du pot des royalties. Et donc ça veut dire que c'est fait au détriment des artistes, des vrais artistes, de ceux qui créent du contenu, de ceux qui créent du contenu qui est engageant. Et en fait, c'est à ça qu'on a voulu remédier. Quand l'industrie a été créée, il y avait un principe fondamental qui était chaque stream est rémunéré de manière égale. Et on pense que c'est le moment de changer ça. C'est Deezer qui l'a lancé avec Universal. Il y en a plein d'autres qui nous ont rejoints. Et on pense que c'est très important parce que ça va remettre une dynamique dans la création artistique, parce qu'il y aura une meilleure rémunération des artistes.
Dernière chose en quelques secondes, est-ce qu'on va trouver un modèle économique pour les podcasts ?
Alors, les podcasts, nous, Deezer, on a beaucoup de podcasts qui sont disponibles sur la plateforme. On a décidé de ne pas investir dans des podcasts exclusifs, donc on a une stratégie qui est différente d'autres plateformes. C'est du contenu qui est extrêmement pertinent sur des plateformes de streaming. Voilà, en ce qui concerne Deezer, on a simplement décidé de ne pas faire d'investissement pour avoir des podcasts exclusifs. Et dans ce cadre-là, pour nous, c'est un modèle qui fonctionne.
Stéphane Rougeot, merci beaucoup, directeur général adjoint de Deezer, notre invité dans les voies de l'économie ce matin.
Merci à tous les deux, François. À demain pour la matinale de l'économie des 6h. Dans 3 minutes, les coulisses de la politique, les Républicains déménagent. Leurs électeurs vont-ils les suivre ? David Doucan a visité leurs nouveaux locaux flambant neufs.